Pour l'instant, je propose qu'on patiente et on avise.
Vous voulez qu'on patiente ?
Nous ne sommes pas la solution. Nous sommes le problème. Et nous en sommes encore à pérorer sur notre exemplarité.
Expliquez-nous comment.
C'est un monde où l'on tente de faire croire qu'une automobile de plus de 2 tonnes qui emmène 500 kilos de batterie est un objet écologique.
Si au lieu de détruire les forêts de Bornéo, d'où nous revenons, de Java, de Sumatra et de l'Afrique centrale, on protégeait ces forêts, il n'y aurait pas de danger.
On est en train de paniquer les populations, là.
Les mesures sautent, on est à plus 4 degrés, on parle d'apocalypse, on parle de... Non mais vraiment, c'est pas radical.
Tout de suite, nous n'avons qu'une terre sur Divergence FM.
Bonjour et merci de nous avoir rejoints. Alors aujourd'hui, nous allons évoquer des événements, qui ne sont pas seulement des événements d'ailleurs, puisqu'ils vont faire parler d'eux longtemps. Alors, ils sont d'ordre international, comme le sommet polaire qui vient de se tenir à Paris et qu'on a appelé le sommet polar. Alors, n'y voyez absolument rien de la littérature policière. Ou la COP28 qui s'ouvrira le 30 novembre à Dubaï. Alors, ils sont aussi d'ordre local, à résonance européenne, comme la Convention citoyenne sur l'intelligence artificielle qui vient d'être lancée à Montpellier et par laquelle nous conclurons cette émission. Alors pendant 3 jours, s'est déroulé à Paris le One Summit Polar. Polar, comme je vous le disais tout à l'heure, ça n'a rien à voir avec les romans policiers, c'était juste un sommet pour les pôles. Depuis 2017, Emmanuel Macron développe cette approche multi-acteur des One Summit. C'est une approche qui a porté sur nombre de sujets. Il y a eu celui de la forêt, de l'océan, la gouvernance de la haute mer, un traité contre la pollution plastique, la protection de 30% de nos espaces maritimes. En tout cas, quel que soit son thème, le One Summit est un format très souple, beaucoup plus souple finalement que toutes les rencontres onusiennes. Il est sans carcan, il permet aux participants volontaires d'adopter ensemble des objectifs et de prendre des engagements. Bien sûr, il est beaucoup plus limité. Alors pourquoi en 2023 prendre une initiative autour de la cryosphère ? Eh bien, d'abord parce que la France s'est, au fil du temps, affirmée comme une nation polaire du fait de sa tradition d'exploration et d'expédition. Sans compter sa présence permanente de scientifiques français dans les deux pôles. Ensuite, eh bien parce que depuis l'an 2000, elle est membre observateur au sein du Conseil de l'Arctique. Que de 2009 à 2012, l'ancien Premier ministre Michel Rocard fut l'ambassadeur français pour les pôles. Et qu'il prit position pour la protection de l'Antarctique avec l'initiative du protocole de Madrid au traité sur l'Antarctique de 1991 avec le Premier ministre australien Robert Hooke. La stratégie française qui est sortie du sommet sur les zones polaires lui a d'ailleurs été dédiée, ainsi qu'à Jean-Louis Étienne. Enfin, parce que la situation de la fonte des glaces est dramatique et que personne ne s'en occupait plus jusqu'à présent. Bien sûr, après Michel Rocard, il y a eu un petit peu Ségolène Royal, mais elle a surtout été faire beaucoup de photos pour Paris Match. Et comme nous l'explique l'ambassadeur des pôles et des enjeux maritimes, Olivier Poivre d'Arvor, eh bien, il était temps de s'en occuper.
C'est très simple. Il y a quelque chose qui s'appelle la cryosphère, c'est la glace. Tout le monde connaît la glace. Sauf que personne ne sait qu'elle s'effondre complètement et que nos vies en dépendent. La glace est en effet dans les deux pôles, au nord et au sud, et c'est dans les glaciers, c'est en gros 15% de la surface des terres émergées dont on va parler. Et en fait, aucune instance internationale, aucune organisation politique ne porte ce qui s'annonce pour être d'ici 2100 comme la grande catastrophe, qui va être double. Un, privation pour toutes les populations des glaciers, ils vont disparaître pour une grande part d'entre eux, d'eau, d'électricité et d'autres activités. Et puis, par effet, la fonte des glaciers, enfin surtout des pôles, ça veut dire l'élévation du niveau de la mer, un autre milliard de personnes, 2 milliards de personnes au total qui vont être touchées par ce phénomène de l'effondrement dû aux effets du changement climatique, évidemment. Il faut avoir tout le monde. C'est-à-dire qu'il faut avoir à la fois les grands pays des glaciers, L'Europe, le grand pays des glaciers, donc ils seront là. Il faut avoir l'Asie, les grands glaciers de l'Himalaya, vous savez,
ils sont
tous
Népal.
Menacés. Népal, extrêmement important. Donc là, il y aura leur président qui sera pour un certain nombre d'entre eux. Et puis, il faut mobiliser le Nord et le Sud. Ça, c'est moins simple parce que c'est deux régimes très différents. L'Arctique, on a le président du Conseil de l'Arctique et le Premier ministre norvégien. Et puis, le Sud, c'est l'Australie et puis les pays de l'Amérique latine. Et il faut mettre ces gens-là d'accord sur le fait qu'au-delà des questions de gouvernance, se prépare quelque chose par les effets du changement climatique qui est dramatique. Donc il faut qu'on s'entende tous là-dessus. Et évidemment, il y a les crises chaudes, hein, vous les traitez tous les jours. Il y a ces crises glaciales, glaçantes, que sont celles des pôles et des glaciers.
Alors, reprenons un petit peu ce que vient de dire Olivier Poivre d'Arvor. La cryosphère, donc, du grec cryos, est un terme qui désigne toutes les portions de la surface des mers ou des terres émergées où l'eau est présente à l'état solide. Et officiellement, on annonce 2 milliards d'êtres humains qui vont être touchés par la fonte de cette cryosphère. Alors, dans les hautes montagnes, cela touche en particulier les populations des pays autour des grands massifs de l'Himalaya et de l'Hindou Kush. Avec le réchauffement, il y aura d'abord la formation de la glacière au moment de la fonte, puis les lacs vont s'effondrer, puis ils vont causer de grandes catastrophes naturelles. Ensuite, ils vont s'assécher, mais la catastrophe se poursuit, puisque l'organisation intergouvernementale ICIMOD, le Centre international pour le développement intégré des montagnes, qui regroupe une dizaine de pays concernés par ce réchauffement sur le toit du monde, rappelle que les hauts sommets apportent de l'eau à 2 milliards de personnes. Et puis l'autre conséquence de la fonte de la cryosphère, et bien cette fois, c'est bien sûr celle des calottes glaciaires qui vont faire grossir, grandir l'océan. Il est donc urgent d'accélérer l'adaptabilité des villes côtières pour ne pas se retrouver, ben, le bec dans l'eau, entre une inévitable relocalisation des populations et un réaménagement des espaces naturels. Et c'est l'objectif du projet Cities concernant les villes littorales. On aura l'occasion d'en reparler car, bien sûr, cela touche notre littoral. C'est une coalition des villes et des régions du monde qui sont menacées par la hausse du niveau de la mer et qui sera lancée pour la première fois à Nice en juin 2025 lors de la conférence des océans. Elle sera animée côté français par Christian Estrosi. Alors, peut-on faire quelque chose par rapport à toutes ces menaces? Oui, nous dit l'ambassadeur à Olivier Poivre d'Arvor.
Il y a trois mesures. La première, c'est arrêter. Il faut laisser tranquille tout ce qui se trouve très bien au fond de l'océan, qui s'appelle l'hydrocarbure. Les hydrocarbures, le fioul, le charbon,
le gaz.
Ça doit rester là. Ça doit rester là. Il faut arrêter, c'est criminel. C'est criminel, ça ne porte pas d'autre nom. Et il faut le dire à nos voisins qui sont tout près dans l'Arctique. Il faut arrêter ça. Parce qu'évidemment, c'est l'immense bombe qui se prépare. Eddie emploie justement l'expression de château d'eau qui vont s'effondrer. Ça, c'est la première chose. La seconde chose, il faut à tout prix expliquer à nos transporteurs maritimes qu'il faut continuer à garder les mêmes espaces de circulation de transport maritime. 95% du transport passe par la mer et ne pas aller au nord. Ne pas prendre la route du nord qui est en train d'être préparée pour être la grande route de circulation possible dans 20, 30, 50 ans du commerce mondial. Parce que cet écosystème très fragile de l'Antarctique, de l'Arctique, il ne résistera pas à cette double pression d'hydrocarbures et puis de milliers de porte-containers qui passent là. Et la troisième mesure, c'est en quelque sorte, et tout, mais partout et dans tout le monde, c'est considérer que le traité de l'Antarctique, c'est un traité modèle. Il devrait s'appliquer à tout, au Moyen-Orient, à la Russie, à l'Ukraine, c'est-à-dire la paix et la science. La paix et la science. En 2048, ce traité peut être rediscuté. C'est un traité qui a été conçu en pleine guerre froide par des pays sages, mais qui se détestaient à l'époque, Russie, États-Unis et d'autres, et qui ont décidé de sacraliser. Voilà. Je crois qu'il est temps de protéger, et l'Antarctique est un élément. Et c'est pour ça que nous poussons aussi beaucoup et nous insisterons pour la création d'aires marines protégées en Antarctique pendant ce sommet.
Le deuxième événement d'importance, c'est l'ouverture de la COP 28, le 30 novembre jusqu'au 12 décembre, à Dubaï, avec toujours le même objectif, réduire nos émissions de gaz à effet de serre. À quelques jours de cette COP28, en audition au Sénat, Jean Jouzel est interrogé sur un papier qui a été signé par 400 scientifiques et publié dans Le Monde sur la proposition d'un traité de non-prolifération des énergies fossiles. Ça n'était pas la première fois que ce papier paraissait, mais cette demande est adressée au gouvernement français.
On ne peut pas être motivé sur le comment si on ne sait pas pourquoi on fait ça. C'est ça qui est très important et que j'aime bien rappeler quand même. Disons, ce n'est pas un jeu. C'est ça que je veux dire, tout simplement. C'est quelque chose d'extrêmement important qui met effectivement, je dirais, qui pose la question de notre comportement d'aujourd'hui par rapport à ce que sera notre climat dans la deuxième partie de ce siècle et donc par rapport aux jeunes d'aujourd'hui. C'est vraiment une question très profonde. Je dis toujours de façon très simple que l'objectif de l'accord de Paris, limité à bien en deçà de 2 degrés, si possible 1,5 degré, c'est que doit-on faire pour que les jeunes d'aujourd'hui puissent s'adapter au réchauffement climatique sans trop de difficultés. C'est bien ça notre objectif commun. Et le problème de ce qu'on doit faire, bien ce qu'on doit faire, c'est aujourd'hui qu'on doit le faire. Pour effectivement, nous décidons, c'est un peu le message, nous décidons, je dirais, disons, d'ici 2030, largement du climat que nous aurons, enfin, disons, que nous léguerons, en tout cas pour moi, ou que vous aurez pour certains, aux jeunes d'aujourd'hui dans la deuxième partie de ce siècle. Alors, bon, simplement quelques rappels. Alors, pourquoi on fait le lien avec les combustibles fossiles? Donc, tout simplement parce que le phénomène auquel nous sommes, alors, je dirais, confrontés, est quelque chose d'assez simple, disons que nous avons collectivement, par nos activités, augmenté l'effet de serre, donc augmenté la composition de certains composés. Bien, disons, il y a 50% de plus de gaz carbonique qu'il y a 200 ans, doublé en méthane, 20% de plus en protoxyde d'azote. On peut décliner tous ces chiffres qui sont bien documentés à toutes les échelles. Ça va jusqu'à l'échelle presque personnelle. On peut faire son bilan carbone. L'État fait son bilan carbone. La CITEPA est une organisation qui donne des chiffres tout à fait clairs sur comment on le fait. Voilà, donc on sait ce qu'on a fait collectivement. Eh bien, disons, cet effet de serre, c'est simplement, ça piège une partie du rayonnement solaire. Une fois qu'il a été réfléchi à la surface de la planète, on augmente l'effet de serre, on augmente le chauffage, grosso modo. À peu près, on l'a augmenté de 1%. Donc, il ne faut pas être surpris si on augmente le chauffage que la température augmente. Donc, même si c'est compliqué dans la boîte atmosphère-océan. Augmenter de 1% et, disons, avec comme conséquence... Alors, j'aime bien souligner très brièvement que de 1% supplémentaire, il n'y a que 1% qui reste dans l'atmosphère, et l'essentiel va dans l'océan. Plus de 90% vont dans l'océan. Et c'est quand même dans l'océan qu'il faut aller voir la réalité du réchauffement climatique, et elle est vraiment très claire, parce que l'élévation du niveau de la mer, ça en est un double témoignage, c'est-à-dire, disons, c'est à la fois... pour à peu près 40% le réchauffement de l'océan. L'océan se réchauffe, il se dilate. Et puis, pour le reste ou l'essentiel du reste, eh bien, la cryosphère. Je viens tout juste de ce One Planet Polar Summit qu'on a ouvert, qui va durer 3 jours. Et vraiment, il y a un cri d'alerte sur le rôle des calottes futures, des calottes glaciaires qu'on maîtrise mal et leur contribution à l'élévation du niveau de la mer. Et effectivement, l'élévation du niveau de la mer est 2 fois plus importante aujourd'hui, 4 mm par an pratiquement, que la deuxième partie du 21e siècle.
Jean Jouzel fera aussi remarquer aux sénateurs que tout ce qui avait été annoncé par le GIEC s'est passé, les exhortant ainsi à faire confiance à la communauté scientifique sur ce qu'elle va annoncer entre 2030 et 2050, car c'est aujourd'hui qu'il faut en décider. L'urgence s'annonce donc à Abu Dhabi, où la COP28 va être présidée par le sultan Al-Jaber. Il a été choisi par la région Asie-Pacifique. Le Huffington Post nous confirme qu'Al-Jaber, patron de la plus grosse compagnie pétrolière émiratie, justifie sa présidence et l'ouverture au secteur privé par la promesse de millions de dollars pour la transition écologique. En tout cas, il aura un large contrôle sur l'ordre du jour de la réunion et lui qui défend l'alliance entre l'économie et l'écologie est à l'initiative d'une immense foire économique organisée en mémoire, en marge des négociations. C'est ainsi que nous rétablirons la confiance, dit-il, entre le Nord et le Sud.
Ce PDG d'un grand groupe pétrolier a été désigné président de la COP28. Et non, ce n'est pas une blague. Il s'appelle Sultan Al Jaber et il cumule déjà plusieurs casquettes. Il est ministre de l'Industrie aux Émirats Arabes Unis, il est aussi PDG de la Compagnie Pétrolière Nationale et il s'est fait connaître en fondant Masdar, une entreprise d'énergie renouvelable. Tout ça paraît assez contradictoire et en même temps, Al Jaber représente bien la stratégie du pays. Abu Dhabi plaide pour une sortie graduelle des hydrocarbures et s'est engagé à atteindre la neutralité carbone d'ici 2050. Pourquoi les Émirats Arabes Unis ? C'est à cause du système de rotation des COP. C'est au tour du Moyen-Orient d'accueillir l'édition 2023. La 28e conférence sur le climat s'y déroulera donc en novembre prochain. Pour rappel, les Émirats Arabes Unis sont le 7e producteur mondial de pétrole. Pétrole qui fait partie des énergies fossiles, dont la combustion est l'une des causes principales du réchauffement climatique.
Ahmed Al Jaber a qualifié l'élimination progressive des combustibles fossiles d'inévitable et d'essentiel. Il a donc déclaré souhaiter mettre l'accent sur le premier bilan mondial, confirmant ainsi la nécessaire transition énergétique. Mais il a aussi déclaré que le système énergétique et les pays du Sud n'étaient pas prêts pour une élimination rapide du fossile tant que les énergies renouvelables, n'augmenteront pas et que le sommet devrait se concentrer sur l'adaptation et la solidarité entre les pays du Nord et les pays du Sud. La COP28 marque l'achèvement technique des accords de Paris. On passe à la phase politique en pointant les problèmes avec une projection jusqu'en 2050. La Convention citoyenne travaille depuis le 10 novembre à Montpellier sur l'intelligence artificielle, parrainée par Cédric Villani. On se souvient que le mathématicien avait déjà remis au Premier ministre son rapport « Donner un sens à l'intelligence artificielle ». Le rapport de Cédric Villani a rendu au gouvernement souligne les capacités interdisciplinaires de l'intelligence artificielle. La transition écologique doit conduire, elle aussi, à un monde nouveau qui se dit au confluent des données environnementales, économiques et sociologiques et qui revendique de croiser les regards des disciplines diverses. Grâce à l'IA, pourrions-nous demain cartographier les espèces vivantes via les nouvelles possibilités fournies par la reconnaissance d'images, prédire la météo, les pollutions, les crues de manière plus précise ou encore utiliser les drones pour la reforestation. Comment identifier les bons usages grâce à une assemblée multiforme, non experte et sans biais? Eh bien, vendredi 10 novembre, la Convention citoyenne sur l'intelligence artificielle, lancée donc officiellement, on en parlait depuis plusieurs mois, les 40 membres de la Convention citoyenne locale ont été tirés au sort, parmi 800 profils, pur fruit du hasard, nous a-t-on affirmé. Réunis à l'hôtel de la métropole, ils doivent répondre d'ici la fin du premier semestre à la question suivante: quelle intelligence artificielle au service des habitants et du territoire? Vous avez dû en entendre longuement parler par Manu Reynaud sur Divergence. Les heureux participants vont mener durant 3 week-ends un travail intensif accompagné d'experts et ils devraient construire un projet sur l'intelligence artificielle aux interfaces avec nourrir, soigner, protéger, le mot d'ordre actuel des grands labos. Alors, cette initiative s'inscrit dans une démarche large et riche à Montpellier avec un projet de cluster et aussi des projets de l'Institut des sciences des données à l'Université de Montpellier. Mais pourquoi parler de cette question scientifique dans Nous n'avons qu'une terre, le magazine de l'écologie? Eh bien parce que l'initiative pose un double défi qui nous concerne. Elle répond à une nouvelle forme de gouvernance, peut-être, et elle apporte des réponses possibles à la transition écologique. Alors d'abord, répondre à une nouvelle forme de gouvernance. Eh bien, c'était au temps où la Convention climat a chanté, où Michaël Delafosse venait d'être élu maire de Montpellier. Les propositions pour une consultation citoyenne fleurissaient dans les cerveaux et certains vieux politiciens s'en méfiaient. N'y avait-il pas déjà une forme de démocratie directe via les comités de quartier? La démocratie directe n'allait-elle pas saper davantage une démocratie des partis déjà vacillante? Depuis, l'édile de Montpellier a découvert que sa ville avait changé et que la complexité dépassait parfois les services proposés. Aujourd'hui, Séverine Saint-Martin, déléguée au renouveau démocratique et à l'innovation, très prudente il y a 3 ans, a rejoint Manu Reynaud, délégué à la ville numérique. Cette convention sera-t-elle crédible, conduite dans la diversité, écoutée? Apportera-t-elle des réponses au blocage de la démocratie, au manque de confiance qui s'est installé entre les habitants et les élus? Seul l'avenir nous le dira. Et pour l'instant, elle est là, elle existe. Le deuxième défi sera de comprendre à quoi cette convention allait pouvoir servir. Après cette session consacrée à la formation aux enjeux de l'IA, les membres se retrouveront début décembre pour un week-end d'audition des experts et des témoins, spécialisés cette fois, par thématiques comme la transition écologique, la santé, la mobilité. Quand il fut rédacteur en chef d'un numéro du journal Libération, Cédric Villani souligna l'importance que pourrait avoir l'IA dans des domaines comme la santé ou l'écologie.
Écocide, pour l'instant non, mais pour l'instant avec plus d'effets négatifs sur l'écologie que d'effets positifs. Avec des potentialités positives et des potentialités négatives aussi, et pour l'instant plus de potentialités négatives que de potentialités positives. Alors, c'est toute une affaire où on peut passer du temps à énumérer des cas d'usage positifs, des cas d'usage négatifs, mais on va dresser une liste rapidement de ce qui va dans le bon sens, ce qui va dans le mauvais sens. Bon. Ce qui va dans le bon sens ou ce qui peut être dans le bon sens, d'abord, c'est tout ce qui est économie d'énergie et de ressources, avec une IA qui peut être utilisée pour, par exemple, je vais dire des choses un peu, des cas d'usage. Piloter une impression 3D qui permet d'économiser des matières dans le design de tel ou tel outil. Ou bien une IA qui va vous aider à disposer vos éoliennes dans un parc d'éoliennes au mieux pour être plus efficace dans la production d'électricité. Ou bien une IA qui va, à base d'analyse statistique, de petits échantillons ici et là, dans une forêt ou dans tel ou tel environnement, dresser un diagnostic de biodiversité, hein, en croisant cette question d'IA avec des analyses d'ADN, etc. etc. Ou encore une IA qui aide, je dis n'importe quoi, ça fait partie des exemples qui existent vraiment, un agriculteur à bien piloter sa gestion de l'eau ou à faire la vendange au meilleur moment en fonction de telle et telle condition météo, ou encore à repérer, à détecter tout de suite telle maladie qui est là, etc. Tous ces exemples sont des choses qui existent. Et si un jour on a, par exemple, si on imagine, comme c'est le cas dans certains scénarios de l'excellent rapport de RTE sur le mix énergétique français, si on veut imaginer un jour un réseau 100% énergie renouvelable, ce sera forcément un réseau avec un très fort contenu algorithmique et très centralisé, parce qu'il faudra être capable très rapidement de mettre en rapport la production à tel endroit avec les besoins à tel autre endroit, etc. etc. Ça ne sera pas quelque chose de décentralisé qui sera juste auprès du terrain. Bon, ça, ce sont tous les côtés positifs. Maintenant, les côtés négatifs. Des côtés négatifs. Ça consomme des ressources, ça consomme de l'énergie. Quand c'est basé sur des grandes bases de données, ça consomme encore plus de ressources, encore plus d'énergie. Et quand c'est le côté extrêmement, quand c'est le côté les grands modèles de langage comme ChatGPT et autres, c'est encore gigantesque, phénoménal. C'est-à-dire par exemple, si chaque entreprise se mettait à développer son large modèle de langage, son grand modèle de langage, ça serait une catastrophe. Bon. En fonction du nombre de serveurs qu'on construira, du nombre de data centers qu'on construira, ça peut tourner au cauchemar, y compris même sur des choses telles que la surface occupée par ces data centers, fonction de la consommation qu'on leur demandera. Ça dépend aussi du nombre de serveurs qu'on utilise pour dupliquer l'information, minimiser le temps de réponse, etc., etc. Donc, là, ici, c'est une question de dosage. Maintenant, un autre problème que vous avez face à l'intelligence artificielle et auquel il faut penser, c'est que ça sert les personnes qui veulent œuvrer dans la bonne direction pour l'écologie, hein, ça sert les spécialistes du GIEC quand ils veulent, par exemple, mieux prendre en compte les effets locaux sur le climat ou mieux présenter les résultats. Et il y a plein de directions de recherche pour le prochain rapport du GIEC qui sont là. Mais ça sert aussi les adversaires. adversaires sont les grandes entreprises qui se nourrissent d'énergie fossile ou sont les puissances qui veulent vous déstabiliser dans tout ce qui va être aussi guerre, activité géopolitique ou tout ce que vous voulez. Guerre étant le pire des projets anti-écologiques que vous pouvez imaginer. Ça va servir à donner des outils supplémentaires aux grands industriels pour vous convaincre d'acheter, aux grands commerciaux pour vous convaincre d'acheter des choses dont vous n'avez pas besoin ou des choses qui sont nuisibles, des gigantesques SUV ou le 30e modèle de smartphone ou la 30e paire de nouveaux vêtements et ainsi de suite. Ça vous fait des campagnes publicitaires super efficaces pour Chine qui, dans le domaine du vêtement, est le pire que vous puissiez imaginer, y compris du travail du semi-esclavagisme, etc., etc. Donc, et comme en ce moment, force est de constater que les intérêts pro-écologie, ils sont plutôt les intérêts pro-écologie, ils sont plutôt moins puissants, beaucoup moins puissants que les intérêts anti-écologie. Hein. Il suffit de comparer les budgets. Le GIEC, c'est quelques millions de budget par an, moins de 10 millions par an. Et de l'autre côté, on estime à l'ordre du milliard l'ensemble des budgets de tout ce qu'il y a de think tank anti-écolo, d'actions conservatrices ou travaillant pour rendre les gens plus climato-sceptiques, etc. On voit que c'est complètement disproportionné.
Ainsi, selon Cédric Villani, l'IA permettrait d'associer la facilité accordée par la machine à la responsabilité humaine des usages. Et après tout, n'est-ce pas un principe que le président de l'Office d'évaluation des choix technologiques, qu'il fut pendant 5 ans, est en droit de poser? En tout cas, la responsabilité humaine reste engagée. Et au moment où les menaces qui pèsent sur l'humanité accélèrent, les choix doivent aussi se faire plus vite. Et forcément, la gestion des données, qui sont de plus en plus nombreuses, doit être plus rapide aussi. C'est pourquoi l'IA pourrait aider les politiques à répondre plus rapidement aux menaces qui nous guettent, à faire émerger les réponses utiles de la science dans un amas de savoir, de données, permettre de voir clair au milieu d'infos effrayantes sans en laisser le droit aux sachants. Et l'exercice présente un triple intérêt. Et Cédric Villani, de laisser planer que le processus en lui-même est important, mais que le débat sera peut-être plus riche que la conclusion.
Pour l'instant, je propose qu'on patiente et on avise.
Vous voulez qu'on patiente ?
Nous ne sommes pas la solution, nous sommes le problème. Et nous en sommes encore à pérorer sur notre exemplarité.
Expliquez-nous comment.
C'est un monde où l'on tente de faire croire qu'une automobile de plus de 2 tonnes qui emmène 500 kilos de batterie est un objet écologique.
Si au lieu de détruire les forêts de Bornéo, d'où nous revenons, de Java, de Sumatra et de l'Afrique centrale, on protégeait ces forêts, il n'y aurait pas de danger.
On est en train de paniquer les populations, là.
Les mesures sautent, on est à plus 4 degrés, on parle d'apocalypse, on parle de... Non mais vraiment, c'est pas radical.
C'était Nous n'avons qu'une terre avec Dominique Martin-Ferrari sur le 93.9.